Frères et sœurs bien-aimés, la solennité de l'Épiphanie nous concerne chacun. Il ne s'agit plus, comme au jour de la Nativité, de présenter l'enfant Dieu comme le sauveur d'un peuple, le peuple élu, le peuple choisi, pour être dépositaire de l'ancienne alliance, mais aussi pour être le peuple dans lequel notre grand Dieu s'est établi. Il s'agit, avec la fête de l'Épiphanie, de confesser que cet enfant, le Messie d'Israël, est tout autant le sauveur de l'ensemble du genre humain, de toute race, langue, peuple, nation, et de tous les temps. En effet, c'est au berger que la providence divine s'est d'abord adressée pour leur manifester que le Messie tant attendu était arrivé, né à Bethléem. Ils le reconnaîtraient sous les traits du petit enfant, emmailloté et déposé dans une mangeoire. Avec la pauvreté des bergers, nous avons contemplé cette pauvreté de Dieu qui se donne à nous sans retard et sans retour pour nous communiquer les grâces, les richesses abondantes de sa vie divine. Les bergers faisaient partie d'Israël, de telle sorte que les anges leur sont apparus, et parce que les bergers parlent le langage de la foi, eh bien voilà qu'ils se sont adressés à eux en langage et ensuite en action de grâce par les chants qu'ils ont entonnés à la crèche. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En revanche, avec les mages, étrangers au peuple élu d'Israël, ne parlant donc pas le langage de la foi, le monde angélique ne se communique pas à eux en parlant ou même en leur apparaissant. Voilà le monde angélique dans sa providence qui se manifeste la royauté d'Israël par cette nouvelle étoile qui vient de se lever à l'Orient. Une étoile à nulle autre pareille. Il ne s'agit pas d'une étoile qui nous permet de nous situer dans l'espace et dans le temps. C'est une étoile nouvelle qui se déplace. Les mages la suivent dans l'obscurité de la foi. Pourquoi donc vont-ils à Jérusalem ? Pourquoi donc sont-ils au courant qu'il s'agit du roi d'Israël ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une étoile. L'étoile est à Israël ce que nos trois fleurs de lys sont à la France, le signe de la royauté. Les peuples ne se reconnaissent que par les différents drapeaux, par les écussons, par les armes qui représentent alors telle famille ou représentent encore telle nation. Aujourd'hui encore, l'étoile dite du roi David est frappée sur tous les drapeaux d'Israël en signe de sa souveraineté, de telle sorte que ces mages étrangers, eh bien, en voyant une nouvelle étoile se lever, savent donc qu'elle concerne ceux dont l'étoile est l'emblème, le peuple d'Israël. Voilà pourquoi ils se rendent dans la capitale et demandent audience au roi Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Avec quel étonnement, avec quelle stupeur témoigne-t-il : nous avons vu son étoile se lever à l'Orient. Hérode, qui n'a obtenu la couronne que parce qu'il a su gratifier abondamment le Sénat romain, Hérode, qui n'est même pas un véritable fils d'Israël, sait que sa couronne est contestable, si sa cruauté ne faisait pas en sorte qu'elle ne soit pas contestée. Voilà donc le stratagème d'Hérode. Envoyons donc ces mages étrangers. Demandons au grand prêtre de Jérusalem, au scribe spécialiste de la loi, où doit naître le Messie dans les Saintes Écritures. Puis, voilà que Il annonce vouloir lui aussi se prosterner devant l'enfant Dieu, mais si le songe angélique prévient les mages après leur adoration qu'il ne faut pas retourner voir Hérode, c'est que celui-ci décidera, eh bien, ne sachant pas où est l'enfant, lequel d'entre eux est le Messie, de faire massacrer tous les saints innocents. Eux n'ont pas pu, par le langage de la foi, proclamer la bonne nouvelle de la venue de notre Seigneur Jésus le Christ, mais le sacrifice de leur sang préfigure déjà le sang versé du Sauveur. Ces mages donc, intrigués par cette étoile, une étoile qui les précède, est une étoile maintenant qui s'arrête. Elle s'arrête au-dessus de la maison où se tient la Sainte Famille. Et lorsqu'ils entrent pour adorer l'enfant, pour se prosterner devant lui, eh bien voilà que cet enfant leur est présenté par la bienheureuse Vierge Marie. Voilà la Mère de Dieu qui présente son enfant. Voilà la nouvelle Ève qui présente le nouvel Adam, celui qui vient à notre secours. Il ne vient donc pas seulement sauver le peuple d'Israël, il vient se manifester comme l'unique sauveur du genre humain. Il dira, dans le mystère de sa passion, « Et moi, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, non pas tous les juifs, ni même plus tard tous les chrétiens, j'attirerai à moi tous les hommes. » Voilà ce Dieu unique qui se manifeste comme, eh bien, le Dieu de toutes les nations. Voilà la raison pour laquelle, au Moyen-Âge, connaissant trois continents, étant donné qu'il y a trois présents qui sont offerts à l'enfant, on en a déduit qu'il y avait donc trois mages, et on a fait, dans la tradition de nos crèches, à la suite de saint François d'Assise, eh bien, un mage représentant chaque continent, pour bien nous dire que l'Afrique comme l'Asie, comme l'Europe, sont concernées par la bonne nouvelle de cet unique Sauveur qui se présente au monde sous les traits de l'Enfant Dieu. Les trois présents sont symboliques, ils sont à décrypter. Tout d'abord, les mages offrent de l'argent. L'argent, ce n'est pas pour les besoins de la Sainte Famille. Ces pièces d'or sont elles-mêmes frappées d'un sceau. Soit on y trouve la figure de l'empereur, soit celle du roi Hérode le Grand. Comme jadis en nos pays, on battait monnaie, les seigneurs de la Bigorre battaient eux aussi leur propre monnaie pour notre comté. Il s'agit donc, par la reconnaissance de l'or, de parler davantage de la royauté, puisque tout seigneur a le pouvoir de battre monnaie avec son effigie. En offrant l'or, il manifeste donc que cet enfant est roi, roi d'Israël, puisqu'ils ont vu son étoile comme son étendard se lever. En offrant l'encens, voilà que ces mages, eh bien, reconnaissent que cet enfant est Dieu, car on offre l'encens qu'à la divinité. Au temple de Jérusalem, d'ailleurs, il y avait toute la cérémonie d'offrande des parfums, parfums d'encens auxquels on rajoutait du sel pour montrer la grandeur et la magnificence de Dieu. Les mages reconnaissent donc que ce roi d'Israël les concerne. Ils se prosternent devant lui. Pourquoi ? Il est roi, certes, il n'est pas leur roi, mais il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voilà qu'ils se prosternent devant leur Dieu. C'était ce que nous avons entendu dans la première épître de la prophétie d'Isaïe. Ces rois qui viennent de Saba, qui viennent de Séba, qui viennent de loin, d'Orient, vont venir offrir l'or et l'encens, nous dit le prophète Isaïe. Il n'était pas encore question de myrrhe. Et pourtant, la myrrhe qui vient en dernier, ils offrirent l'or, l'encens et la myrrhe, nous annonce déjà que le Seigneur Jésus, ce roi des rois, Dieu lui-même, va mourir. La myrrhe est ce parfum très précieux qui sert pour rendre hommage au corps des défunts, pour les embaumer, pour les entourer de la bonne odeur, de toute notre affection, de toute notre gratitude. Voilà donc un drôle de cadeau à offrir à un nouveau-né. Ils annoncent donc à travers ce présent, eh bien, que le Messie d'Israël, qui est le Fils du Dieu vivant, ce Dieu vivant, éternel, ce Dieu unique, va paradoxalement mourir pour que nous ayons à sa suite la vie éternelle. C'est donc aujourd'hui épiphanie du Seigneur, celle de la manifestation, c'est ce que signifie ce terme, la manifestation de la divinité de Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu d'un peuple, il est le Dieu de tous les peuples. Il n'est pas seulement le Dieu d'un temps, il est le maître du temps. Et voilà qu'il nous invite à entrer dans son éternité. Si au jour de Noël, avec les bergers, nous avons adoré l'enfant Dieu, lui présentant nos pauvretés intérieures, aujourd'hui, avec les mages, nous lui offrons toutes nos bonnes actions, notre or, notre encens, notre myrrhe, tout ce que nous tenons de lui et que nous avons su faire fructifier, tout ce bien commun auquel nous devons chacun travailler dans l'amour de Dieu qui doit se manifester dans l'amour du prochain. Avec les mages, nous adorons le Dieu unique et nous lui demandons qu'à l'heure dernière, il nous fasse entrer dans sa demeure éternelle. Ainsi soit-il.